Ce jour dédié pour une bonne parnassa chez Shimon ben Mesroda Gedge, Bezrat Hashem. À la question de Avishai.
À la question, est-ce qu'aujourd'hui il existe encore soit des pouvoirs, soit des créatures, soit des trucs un petit peu qu'on appelle surnaturels, et concrètement, c'est-à-dire qu'on peut ressentir, qu'on peut peut-être voir, qu'on peut... Voilà, qu'on peut...
Bon, il y en a beaucoup moins. Donc on va dire comme ça, les phénomènes qu'on appelle parapsychologiques, tels que... sorcellerie, envoûtement, d'e-book, démon, possession, démon. Bon, on va parler un peu de plus. C'est intéressant. Bah, ça existe beaucoup moins. D'accord ? Le Rambam, lui, donc il y a 900 ans, il dit tout ça, dans le Talmud, il y a beaucoup d'histoires irrationnelles. Il dit tout ça, c'est de façon allégorique. Il n'y a pas de réalité pareille. Dans le Shulchan Aruch, il faut savoir, dans le traité Yoredea, chapitre 179, là-bas, il y a un chapitre entier, dans Shulchan Aruch, les lois de sorciers et sorcellerie. D'accord ? Si vous voulez l'étudier, c'est intéressant. Et là-bas, c'est écrit que celui qui a été mordu par un scorpion, alors, il peut faire dessus des incantations Shabbat. Shabbat n'a pas le droit de parler des paroles de Chol, profanes. Est-ce que je fais des incantations ? Je vais dire une sorte de abracadabra, d'accord, abracadabra, 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 scorpion, scorpion, taille-toi de là, d'accord, un truc pareil, d'accord ? Je ne sais pas, une incantation pareille. Alors, est-ce qu'il peut faire ça Shabbat ? Je crois que oui, bien que ça ne serve à rien. Le Gaon de Vilna écrit, bien que ça ne serve à rien, hein, c'est Shulchan Aruch a recopié les paroles du Rambam. C'est le Rambam qui dit ça. Mais c'est faux, parce que le Rambam était influencé en mal par la philosophie. Et on a des dizaines et dizaines de preuves, soit dans le Talmud, d'incantations, de démons, de magie, de trucs. Et c'est, on ne peut pas dire que c'est simplement ceux qui sont influencés en mal par la philosophie disent que c'est allégorique, mais ceux qui connaissent le vrai sens de la Torah, la Kabbalah, la vraie intériorité de la Torah, savent que c'est absolument vrai. Donc, c'est une machloket, une divergence d'opinion entre les grands d'Israël. Il est vrai qu'aujourd'hui, on va dire que le monde des rabbins est plus du côté du Gaon de Vilna, c'est-à-dire que bien sûr, ça existe. Mais c'est vrai que c'est beaucoup moins courant aujourd'hui. Beaucoup moins courant. Ma femme est marocaine, elle me raconte sa grand-mère, elle avait des démons, des trucs, des machins. La mère de ma grand-mère, elle accouchait les démons. Elle était accoucheuse, une fois ils l'ont fait accoucher, ils ont mis un bandeau, descendre comme ça, elle accouchait une démon. Ça te fait peur, voilà. Bon, c'était monnaie courante, ces choses-là. D'accord ? Ici à la Yeshiva, il y a eu quelques cas de démons, je ne vais pas vous faire peur, d'accord ? Il y a deux, trois élèves qui m'ont, à des époques différentes, qui m'ont dit que j'étais dans leur lit, que j'étais immobilisé. Puis ils voient devant une sorte de forme comme ça, et ils ne peuvent pas bouger. Et ils ont une trouille terrible. Et c'était des gens sérieux, c'était pas des... Ça te fait peur ? Si, ça te fait peur, je vais pas répondre. Il y a un camp dans les chambres, il y a un qui étudie si tard la nuit, puis ils entendent la porte qui s'ouvre, puis ils entendent des pas comme ça, de la porte qui s'ouvre. Ils n'osaient pas se tourner, d'accord ? Alors je ne sais pas si c'était quelqu'un qui est passé en courant pour aller aux toilettes, ou je ne sais pas, mais bon, à 2h du matin, une fois, deux fois, trois fois. Bon, il y a eu quand même des cas dans les chambres. Voilà, bon, Hacham, une fois, il s'est fait griffer dans la douche. Il a vu, il y a eu une marque comme ça, carrément. Bon, ça arrive. Moi, bon, Hacham, j'ai jamais entendu parler de choses pareilles. Ça me fait un peu rigoler. Mais bon, ça, il y a des choses pareilles. J'ai un élève qui est très sérieux. Il m'a dit qu'il habitait une maison hantée. C'est très courant. Et ils entendaient la nuit comme ça, les pas. Puis des tiroirs qui s'ouvrent, qui se ferment, des portes qui s'ouvrent et qui se ferment, alors qu'il n'y a personne. Ça, c'est des choses qui sont courantes. C'est pour ça que quand on rentre dans une nouvelle maison, on fait un tikkun bayit. Tikkun bayit, donc on lit certains textes, on a 10 personnes religieuses qui lisent ces textes-là, comme ça fait partir toutes les forces négatives. Et des fois, quand on ne fait pas ça, ça peut être très, très, très nocif. J'ai quelqu'un qui était dans mon collège, il étudiait, son fils de 8 ans est décédé, et pauvre, alors Alechem, et alors Rabbi Sma Bachol qui lui a dit, tu as fait un tikkun bayit, il lui a dit non, encore maintenant tu le fais. Sous-entendu, c'est à cause de ça que ton fils il est parti, il y a une force négative dans la maison qui lui a fait du mal. Donc, il y a des choses pareilles. Une fois, j'étais à Strasbourg, une fois, j'ai fait un week-end là-bas. Trois personnes différentes sont venues me voir, leur dire que dans leur cave, tout en bas de leur immeuble, d'accord, on entend des cris. C'était des caves dans lesquelles on avait torturé, les nazis torturaient des juifs durant la Shoah. Et encore des cris là-bas. Alors, c'est le nazi qu'on est en train de torturer là-bas, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il y a des choses pareilles. Donc, mais c'est vrai qu'on est beaucoup moins habitué à entendre des choses de ce genre-là. La Gemara pullule de ce type de choses, toutes sortes de choses qu'on n'a pas le droit de faire, par exemple, zugot. C'est écrit dans le dernier chapitre de Ripsachim qu'on n'a pas le droit de faire des choses par deux paires. Tu prends un verre, ça va. Deux verres, il faut prendre un troisième verre. Jamais, ni 2, ni 4, ni 6, ni 8. Pour la question, comment ça se fait maintenant que la nuit de Pessah, il faut boire 4 verres de vin, c'est père. C'est Pessah, c'est spécial, il y a une protection divine. Mais sinon, Abaye raconte que sa mère adoptive, d'accord, quand il buvait quand il avait un verre, il y avait déjà, et si vous prenez un deuxième, il y avait déjà un troisième qui devait tenir. Il y avait deux verres dans la main et un qui était là, d'accord, de peur qu'il oublie d'être en impair. Un type, une fois, il a divorcé et il allait boire au bistrot, d'accord, et sa femme se remet avec le patron du bistrot. Et chaque fois qu'il venait au bistrot, elle lui faisait toutes sortes d'envoûtements, etc., et ça ne marchait pas. Il lui faisait attention de toujours boire des verres impairs. Une fois, il a bu comme ça des verres de vin, et au 16e, il était arrivé, là, il a perdu le compte, il est sorti, il a claqué un petit morceau, d'accord, il s'est fait complètement ratatiner par l'envoûtement. Bon, alors ça n'existe plus aujourd'hui. On ne connaît personne au monde qui fait cela. Il y a dans Avodah Zarah une page entière, dans le traité Avodah Zarah, sur qu'on n'a pas le droit de laisser dévoiler certains liquides, l'eau, le vin, le lait, l'ail broyé et le miel. 5 liquides. Pourquoi? On a peur qu'un serpent vienne et mettre du venin dedans. Il faut que ce soit toujours couvert. Ce n'est pas question de nuit, de jour. Si c'était découvert le temps qu'un serpent qui était caché sous l'anse de l'ustensile, tac, il vient, il met son venin et il repart. D'accord? Ça prend combien? 4-5 secondes? Déjà, on ne peut plus boire cela. Alors, aujourd'hui, on ne fait pas attention à cela. Le Tosfot écrit, aujourd'hui, les serpents ne sont plus tellement fréquents chez nous, donc on ne fait plus attention à cela. C'était en France, il y a 800 ans, le balai à Tosafot. Mais certains rabbins, aujourd'hui, font attention à cela. Abraham Kanievski, sa femme, une fois, elle a fait un gâteau avec de l'eau qui avait été dévoilée comme ça, ben, ils n'ont pas mangé. D'accord? Tu donnes à quelqu'un d'autre, hein? Le rabbi Yosef, il a fait, j'ai entendu une fois dans un cours, il a dit que c'est certain qu'il y a des sens plus profonds à cela. Pas uniquement le serpent, il y a des forces négatives qui viennent, etc. Alors, en général, on ne fait pas attention. Il y en a qui font oui attention, mais c'est vraiment très très peu de monde sur Terre. Donc, il faut dire qu'aujourd'hui, ces choses sont beaucoup moins. Le D-Book, hein, c'est une chose. Il y a un livre qui a été traduit maintenant en français, il vient de sortir enfin, d'accord, le Rav Chacham Yudaftaya, les démons à Rouchot, mais ça pour les fantômes racontent, les esprits racontent, d'accord. Lui était spécialisé dans déposséder les gens possédés. Il raconte comment des dizaines de gens, comment il les a dépossédés. Je crois que même Shabtai Tzvi, ou même Otto Haïch, ou même Shabtai Tzvi, donc qui était le faux messie, il est venu dans quelqu'un et il a réussi à le réparer. Donc c'était une réalité qui était extrêmement répandue. C'était en Irak il y a un siècle environ, d'accord. Aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup moins répandu. On connaît un cas en Pologne avec Rafael Strahim, l'élève de Rav Israël, le rabbi Hanan Wasserman, donc avant la Deuxième Guerre mondiale. Mais aujourd'hui, il y a eu un cas il y a 20 ans avec un D-Book. Il y en a qui ont dit que c'était vrai, il y en a qui ont dit que c'était faux, d'accord. On ne sait pas si c'était vrai. Bon, en tout cas, c'est très très peu courant. Mais ça existe. Les ensorcellements, ça existe. Il y en a beaucoup moins qu'un temps. Je rappelle quelqu'un qui est Shomer Mitzvot comme il se doit. Il a les mesures à la maison, il a fait le Tikkun Bayit, il fait Shabbat, il fait ses brachot avant, après d'avoir mangé, etc. Normalement, il n'a pas à craindre les envoûtements du tout. Que les cas extrêmes, 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 dans ce cas-là, qui me contacte, je dirais qui parlait. Il ne m'appelait pas tous, parce que chaque fois que je suis en cours là-dessus, j'en ai après des dizaines qui m'appellent. Il y a des gens qui ont des problèmes, ils ne sont pas tous envoûtés, d'accord. C'est parce qu'on a des problèmes qu'on est envoûté. C'est très rare aujourd'hui. En tout cas, la première chose à faire, c'est commencer le pratiquant. Alors, commencer le pratiquant bien comme il faut. Si ça ne marche pas, alors appelez, c'est vraiment quelque chose qui c'est vraiment en courant, on pense qu'il y a un envoûtement très clairement, vous pouvez toujours m'appeler Bezrat Hashem. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les envoûtements. Les possessions, on a parlé. La sorcellerie, il y en a. Tu avais encore d'autres questions? Les démons, on en a parlé. Les
Neshamot.
Les Neshamot, quoi, Neshamot?
Ils viennent, ils repartent, ils font des balades ici, des fois.
Bon, des fantômes, donc des esprits. Voilà. Alors j'ai dit oui, c'est certain qu'il y en a. Une fois, on a reçu une jeune fille chez nous à la maison avec ma femme, et qui était Ashkenaz non religieuse, d'accord, à la base. Donc c'était Ashkenaz non religieuse, très très loin de la Torah. Puis elle a fait tchouva. Comment? Eh bien, sa grand-mère est venue, sa grand-mère, feu sa grand-mère défunte, est venue la voir. Et ça, c'est la terrassée. Mais comment? Elle était au salon, puis il y a un truc qui est entré, comme ça, une sorte de truc, on peut pas dire, c'est une sorte de nuage, un truc. Pouvoir me dire ce que c'est, comme ça. Elle sentait que c'était sa grand-mère. Donc les gens, ils sentent des fois des présences comme ça. Et donc elle a compris qu'il y a une vie après la mort, elle a cherché, elle a fait tchouva. Donc il y a des témoignages pareils. Elle était allée voir Laura Frankfurter, qui à l'époque lui a fait un. Il a écrit un truc que ça, pour séparer le monde des morts, le monde des vivants, et les morts n'ont pas le droit d'intervenir comme ça dans le monde des vivants. Mais soit une mezouza kekshera, kekacher, normalement, il faut mettre une mezouza au bon endroit, une bonne mezouza, et dans toutes les chambres. Sinon, ça ne marche pas, la protection. D'accord? C'est très important. Quelqu'un qui a besoin de mezouza, il peut ne pas prier shachrit mincha ravit pour aller acheter la mezouza. Tellement c'est important de la mettre pas shachrit et une seconde sans mezouza. Mais comme j'ai dit, ces choses-là sont beaucoup moins courantes, bien qu'elles existent. D'accord? Donc nous, on fait attention, il y a pas mal de choses qu'on fait dans la halakha qui concernent cela. On évite de dire le mot démon la nuit, ou même le jour, d'accord? Mais la nuit, c'est encore plus grave. Ou le dia et puis bl, d'accord? En hébreu, en français, en anglais, d'accord? C'est ce qu'il faut éviter parce que ce sont des forces du mal. Il y a le samer même, et puis alef lamet, c'est un nom qu'on ne dit pas. Le lel et puis lit, d'accord? Tout ça, c'est chaud parce que vraiment, il y a des forces du mal qui existent et qui peuvent agir et nous faire du mal. Oui, un homme ne dort pas sans lumière parce qu'il peut être attaqué. Aujourd'hui, les attaques du SRA, la plus grande, c'est déguisé en Miss Monde. D'accord, c'est ça, le plus grand danger, c'est les pires. D'accord, parce qu'ils se nourrissent du Zerah Batala. Et un grand moyen de réparer les Zerah Batala des pollutions nocturnes involontaires, c'est Krechma Shalamita. Si on fait Krechma Shalamita avec beaucoup de conviction, Ohamapil, les versets de protection après cela, ça protège d'avoir pollution nocturne et on peut réparer jusqu'à 1125 démons créés par une pollution nocturne. C'est une pollution nocturne, d'ailleurs, c'est bien d'aller au mikvé le lendemain. Et Fartchouva, le Rav Chaya dit si on fait ça, alors la force négative qui a été créée, appelez-le démon comme vous voulez, elle est éliminée. D'ailleurs, je pense que le mot démon en français vient du mot d'imayon en hébreu qui signifie imagination. Le Rambam, les démons, c'est ton imagination, d'accord? T'es perturbé, tu vois des trucs, des machins, c'est toute l'imagination. Donc ils ont appelé ça démon, comme le Rambam. Voilà. Je pense que c'est l'origine du mot démon en français.
Qu'est-ce qu'il en est du
3x6?
Ouais, 3x le mot numéro 6.
Ah ouais, si, je pense que c'est un truc qui est chrétien. Il n'y a aucune source à cela dans le judaïsme. D'accord? C'est pas quelque chose qui existe chez nous, absolument pas. Le vendredi 13, par exemple, c'est un jour porte-bonheur. Vendredi, c'est un jour très bien. 13, c'est Echad, 1, donc c'est très très bien. Ouais, on n'a pas chez nous ce genre de choses. C'est des superstitions fausses, auxquelles on n'a pas le droit de croire. Maintenant, c'est l'occasion aussi de parler de cela. Il y a beaucoup de gens, très souvent les Sfaradim, c'est très répandu chez les francophones, donc ils voient tous des signes partout, c'est interdit. Voir un signe, c'est interdit de la Torah, l'Otena Hashu. Tu n'as pas le droit de voir quelqu'un, et, je ne sais pas moi, il sort, il voit un chat noir. Bon, ce n'est pas le moment de sortir maintenant, j'irai plus tard. Ou il passe sous une échelle, ou il voit une colombe qui va à l'envers. Qu'est-ce que j'en sais, n'importe quoi. Interdit de la Torah.
Donc, Minashamayim, c'est un petit peu ce que je
veux. Non, Minashamayim, quoi, Minashamayim. Il faut.
Est tombé, je me dis que c'est grâce à Hachem.
Qu'est-ce qui est tombé?
Je ne sais pas, moi, j'ai raté mon bus. Et puis je me dis, Minashamayim.
Ça ne sert à rien du tout, tu as raté ton bus. On s'en fout, d'accord. Quel signe tu vois là-dedans?
Hachem, il voulait m'entarder pour que je réfléchisse à quelque chose, et du coup, voilà.
Peut-être, ça c'est valable. J'explique. On voit dans la Torah deux fois qu'il y a oui des signes. Yitzhak, qui va chercher, Eliezer, serviteur d'Abraham, qui va chercher une femme pour Yitzhak, et il demande à Dieu, la fille qui sortira, je lui demanderai à boire, si elle se propose par elle de donner à boire à mes chameaux, c'est elle. C'est un signe. Elle fait ça, c'est un signe. Jonathan, le fils de Shaoul, à Meler, il part en guerre contre les Philistins, lui prend son écuyer, il dit, viens, on va aller près du camp des Philistins. Et on va voir, il dit comme ça, si je fais coucou, d'accord, si eux nous disent ne bougez pas, on descend vers vous, ça prouve qu'on va perdre la guerre, donc on fuit. Si au contraire ils disent venez vers nous, ça veut dire qu'on peut y aller et on va gagner. Ils ont fait ça, les gardes ont dit, hé, venez, ils sont allez on y va. Et lui tout seul avec son écuyer, tout le camp des Philistins les a complètement ratatinés. Il y a une grande victoire pour les... Alors on voit qu'il a fait un signe, d'accord. Alors les décideurs disent non, c'est tout à fait différent, parce que ces deux signes sont des signes où il y a un rapport entre le signe et la réalité. Avec Rivka, il voulait voir s'il avait des bonnes midotes. Si je lui dis donne-moi à boire, puis il dit tiens, t'as 10 chameaux, allez, je leur donne aussi, c'est 300 litres, allez, comme ça, puiser, ça prouve qu'elle a très, très bonne midote. Donc c'est pas un signe qui n'a aucun rapport. Tu vois un chat noir, où est le rapport avec la choucroute? Il n'y a rien à voir, d'accord. C'est idiot, c'est idiot et interdit. Jonathan aussi, lorsque les gardes disent attendez, on descend vers vous, c'est-à-dire qu'ils sont en confiance. Donc on va perdre la guerre. Donc c'est dangereux de les attaquer. S'ils disent ne bougez pas, venez vers nous, ils ont peur, venez dans notre campement, c'est-à-dire qu'ils ont peur, on peut les attaquer et on les aura. Donc il y avait un rapport entre le signe. Alors si c'est comme ça, si maintenant tu as raté le bus, tu dis bon, Dieu veut maintenant que je m'assoie, que je fasse un bilan sur moi-même, c'est pas forcément que Dieu veut cela, mais que quoi tu imagines cela, c'est bien, parce qu'il peut qu'il y ait un rapport entre ça. Tu as un retard, tu vas rester sur le banc, regarder maintenant les choses qu'on ne peut pas voir, d'accord. Tu fermes tes yeux et tu fais un bilan personnel. Ça, c'est bien. Mais quand ça n'a pas de rapport, d'accord, et tu vois dans des choses qui n'ont rien à voir, chaque fois que je fais ce cours-là, je raconte cette anecdote du Rav Eliashiv qui est extraordinaire. Je l'aime tellement, elle est tellement belle, on voit exactement comment un grand Torah réfléchit. Un couple vient voir le Rav Eliashiv, des gens déjà assez âgés. Il dit, Kodarav, on a marié notre fille la semaine dernière, c'est notre dernière fille, on n'a plus d'enfants à la maison, on rentre à la maison, et on voit sur la table, la petite table qu'il y a dans le salon, on voit un pigeon et une colombe, d'accord, les deux blancs, d'accord, les deux blancs comme ça, posés sur la table. On est entré, bon, ils sont envolés par la fenêtre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est beau ça. Maintenant, on a marié notre dernier enfant, on est resté, on est blanc, peut-être on est un peu vieux maintenant, on va rester ensemble. Le Rav a dit, à mon avis, vous avez oublié de fermer la fenêtre avant de partir pour le mariage. Tellement juste, tellement droit. Qu'est-ce que tu cherches des signes? Qu'est-ce que tu cherches des signes? C'est interdit. C'est beaucoup pour beaucoup de gens. Hein. La religion, c'est 90% c'est les signes et 10% de la Torah. La religion, c'est rien en signe et beaucoup de la halakhot qu'on doit faire de façon extrêmement rationnelle. Baruch Adonai, l'olam, amen ve amen.